Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Crozat. Vous êtes sur Graphite. Et donc, nous présentons depuis 3 semaines maintenant des émissions autour du cours de l'UTC WE01, écrire, communiquer et collaborer sur le web, dont vous pouvez retrouver les détails sur librecours.net. Donc c'est la 3e semaine d'émission, comme je le disais. On a déjà parlé low-technicisation, médias sociaux, désinhibition, surveillance, smart cities. Précédemment, Edouard, Dimitri et Alban nous ont posé la question: peut-on garder le contrôle sur ses données personnelles? Et donc, toutes ces interventions, ainsi que celles que nous allons démarrer dans quelques instants, peuvent être trouvées sur la chaîne, sur le site aperi.tube, chaîne WE1. Donc, nous allons à présent écouter Bastien Cosson, Thomas Neveu et Charles Haut sur la thématique enjeux environnementaux liés au stockage et à la transmission des données informatiques. Bastien, Thomas, Charles, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et oui, vos micros étaient coupés, mais ils vous ont bien dit bonjour. Et donc, vers 16h45, on aura 2 autres groupes qui parleront numérique, un élan controversé et affordance des médias sociaux numériques, en compagnie de ma collègue Audrey Guélou. Donc, on est parti pour cette seconde émission. Donc, Bastien, Thomas, Charles, êtes-vous prêts?
Oui.
Si vous êtes prêts, on part sur la première partie: impact écologique des data centers et comment le diminuer.
Donc vous avez déjà eu le début de l'intro, mais je vais la refaire. Donc avec le numérique, Internet et le cloud, on parle souvent de dématérialisation, mais on oublie souvent que de nombreux équipements physiques sont nécessaires à l'acheminement et au stockage des données. On s'est donc intéressé en particulier au secteur du stockage et de la transmission de données en tentant d'identifier au mieux leurs conséquences environnementales et d'étudier les solutions alternatives pour limiter ces conséquences et ainsi rendre le numérique plus respectueux de l'environnement. Donc je vais me passer à la première partie qui est l'impact écologique des data centers et comment le diminuer. Donc les data centers sont un pilier Internet et la problématique liée à leur consommation électrique est prioritaire. En effet, ils sont souvent pointés du doigt quand on parle de la consommation excessive du numérique. Il faut savoir que les data centers représenteraient aujourd'hui un peu plus d'un tiers de la consommation électrique du numérique, soit environ 3% de la consommation d'électricité mondiale en 2020 selon une estimation. Et rapporté du point de vue de la France, c'est environ 2% de l'électricité française. De plus, sur 10 ans, l'énergie, ça représente environ la moitié du coût global d'un data center, avec la construction et la maintenance qui représentent un quart chacun. Donc en plus d'un intérêt écologique, il y a un réel bénéfice économique à réduire la consommation énergique des data centers pour les sociétés du numérique et les gens du web. Donc pour comprendre comment on pourrait réduire cette consommation, je vais d'abord vous expliquer comment est répartie la consommation d'électricité au sein d'un data center. Donc un data center, c'est quoi? C'est un grand groupe de serveurs informatiques généralement utilisés par des organisations pour le stockage, le traitement ou la distribution à distance de grandes quantités de données. Pour faire fonctionner ces serveurs, il faut acheminer l'électricité de façon fiable et pour les alimenter et les refroidir en continu. Donc un data center a 3 principales sources de consommation d'électricité: les composants des équipements informatiques, donc les serveurs, disques de stockage et équipements réseau, ainsi que les systèmes de refroidissement et climatisation, qui sont principalement les ventilateurs, compresseurs, donc les clims, ou des pompes, et également de nombreuses pertes liées à l'infrastructure électrique. Donc lorsque l'électricité passe par des câbles ou des composants comme les transformateurs ou onduleurs, on perd une partie d'énergie. Et à cela peut s'ajouter l'éclairage et le système de sécurité. Donc pour mesurer la performance des data centers en termes de consommation énergétique, la métrique la plus utilisée, c'est le PUE, Power Usage Effectiveness. Il est calculé en divisant le total de l'énergie consommée par le data center par le total de l'énergie utilisée par les équipements informatiques, donc serveurs, stockage et réseau. Un PUE idéal, c'est donc 1, c'est-à-dire que toute l'électricité est utilisée par les équipements informatiques sans perte. Et c'est ce vers quoi chaque concepteur data center essaie de tendre. Les grands acteurs du secteur data center comme Amazon, Google, Microsoft ou OVH arrivent à atteindre des PUE proches de 1,2. Entre 1,2 et 1,4, notamment grâce au water cooling, qui est le refroidissement par eau froide par échange de chaleur. On peut néanmoins critiquer cet indicateur PUE, souvent calculé dans des conditions optimales pour le minimiser par les propriétaires de data center, De plus, l'indicateur n'est pas complet. Il ne prend pas en compte des performances du matériel informatique ou de l'usage de la puissance de calcul. Par exemple, si on a un data center trop grand pour nos besoins et que l'on fait marcher des serveurs inutilisés, on perd de l'efficacité, mais ce n'est pas donné par le PUE. Nous allons maintenant écouter un extrait de la vidéo YouTube Green Mountain, the world's greenest data center, dans lequel Gary Cook de l'association Environmental Standards et un employé de Green Mountain, qui est donc une société de green data center en Norvège, vont nous parler des enjeux liés à la consommation des data centers et à quel point c'est devenu important pour les sociétés du numérique.
The 21st century is increasingly moving to a digital economy. And data centers are a key backbone to delivering this. They're really out of sight, out of mind for most of us, but we are using them with every Zoom call, with every email. These are the factories of the digital economy. And so it's a critical question of where does that power come from? Companies like Facebook, who were making decisions initially without an eye towards how they're going to power with renewables, they then made a commitment. They were making decisions on location, 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 because that's going to be central to whether they'll be able to help them achieve their climate change goals.
Today, not all data needs to be close to the client. They can actually move that data to somewhere where it can get a more sustainable delivery. When I started in Green Mountain 5 years ago, sustainability was something that was nice to have. Companies would take it if they got it, but now it is decision criteria number one or two for a lot of in the marketplace.
Donc, je vais maintenant vous présenter les principaux moyens de réduire la consommation électrique d'un data center. Donc pour cela, plusieurs possibilités. On peut moderniser les infrastructures vieillissantes. Donc ça peut poser des problèmes de disponibilité des données, par exemple, puisque lorsqu'on fait les travaux de modernisation, les données peuvent ne pas être disponibles. Et on peut également se demander si moderniser est toujours la bonne solution, puisqu'en effet, on va consommer de l'énergie et des ressources lorsqu'on va devoir fabriquer les composants de remplacement. Donc c'est à étudier par les différents ingénieurs. On peut également prendre en compte la consommation électrique dès la conception d'un data center et du coup faire des choix en conséquence, notamment grâce à l'IA qui permet d'optimiser son flux d'air et d'anticiper les dérives énergétiques. On peut également utiliser une source de refroidissement gratuite. Donc pour cela, il y a plusieurs possibilités. L'eau de mer, de lac ou de rivière froide. On peut également construire le data center dans un lieu froid ou utiliser la température constante fraîche du sol. Donc il faut faire attention néanmoins quand on va rejeter cet air ou cette eau chaude dans les écosystèmes, puisqu'il peut y avoir des conséquences. Donc la meilleure façon, c'est de la réutiliser. Et donc ça permet en plus de réduire l'impact d'un data center. Puisqu'on peut par exemple utiliser la chaleur produite pour chauffer des habitations. C'est fait par l'Université de Bourgogne, qui récupère jusqu'à 65% de la chaleur perdue de son data center, qui fournit ainsi 5 à 8% des besoins en chauffage de l'université. Et dans la vidéo que je vous ai passée, dans le reste de la vidéo, Green Mountain nous explique qu'ils utilisent cette eau chaude pour l'élevage de homards qui ont besoin de température de 20 degrés et les cultures hors sol. Donc ça permet de ne pas gâcher de l'eau chaude dans un pays comme la Norvège. C'est très utile. On peut également investir dans la production d'énergie renouvelable et les utiliser pour alimenter son data center. Donc même si c'est considéré comme une réduction de l'impact environnemental, on peut se demander si cette pratique ne s'apparente pas dans certains cas à du greenwashing ou éco-blanchissement, pardon, le procédé de marketing pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique, puisqu'en effet on ne réduit pas vraiment la consommation électrique, on se contente d'acheter ou d'investir dans des énergies renouvelables, donc ce n'est pas forcément l'idéal. On peut également construire des hyper data centers pour réaliser des économies d'échelle, ou compter sur l'amélioration progressive des équipements informatiques par les chercheurs et ingénieurs. Donc voilà toutes les façons principales de diminuer la consommation électrique d'un data center. À noter que les grands acteurs du secteur des data centers appliquent déjà ces méthodes et que les améliorations majeures ont déjà été réalisées entre 2007 et 2013, notamment du côté du système de refroidissement. C'est pour cela que compter uniquement sur la recherche et développement des composants informatiques et électroniques risque de ne pas être suffisant pour compenser la croissance grandissante du volume de données mondiales. D'où la nécessité de réfléchir à la pertinence d'une donnée avant de la stocker dans un data center et d'être donc sobre.
Merci à toi de ce premier axe, hein, et tu fais effectivement l'enchaînement avec un petit peu la suite et puis la fin, donc se poser la question de la pertinence du stockage des données. Alors, dans les différentes axes que tu nous as présentés, là, les différentes solutions, pardon, pour réduire la consommation électrique des data centers, il y en a une qui m'interroge, puisqu'en quelque sorte, j'ai un peu l'impression qu'on a une boucle infinie, c'est-à-dire que tu nous dis que pour diminuer la consommation électrique des data centers, bah, on va faire appel à l'IA, qui va donc nous permettre de calculer, d'anticiper, etc. Mais en quelque sorte, on a un peu des data centers parce que justement, on veut faire des calculs, donc si on fait des calculs pour optimiser les data centers, est-ce qu'on ne va pas empiler des data centers sur des data centers ?
On génère de la data pour optimiser la data, donc oui, c'est vrai que ça paraît un peu controversé, mais je pourrais par exemple donner l'exemple de Google, qui est un des pionniers dans le domaine et qui utilise l'IA depuis 2014 à peu près pour pouvoir, comme une sorte de thermostat géant, anticiper au plus juste et en temps réel l'énergie nécessaire pour refroidir leur data center. Donc ils ont réussi ça grâce à DeepMind, leur filiale spécialisée en IA, et ils ont annoncé une réduction de 40% de l'électricité nécessaire au refroidissement des data centers. Donc c'est quand même une grosse performance, et à l'échelle de Google, c'est assez important. Et il y a d'autres initiatives qui ont été menées, par exemple, par les chercheurs des mines de Douai, qui ont développé un logiciel d'acquisition et d'optimisation du PUE. Et il y a d'autres industriels qui développent, comme Schneider Electric aussi, qui proposent des modules d'IA dédiés au pilotage intelligent de la climatisation. Donc ça montre que les industriels s'y intéressent et que c'est efficace, puisque... Sinon, ils n'investiraient pas dedans, quoi.
Oui, ouais, effectivement, non, tu montres bien qu'il y a une réduction de la consommation, mais encore une fois, c'est...
À grande échelle, oui.
Alors oui, donc à grande échelle,
c'est pas très intéressant. Ouais.
Tu le montres bien, mais on a peut-être évoqué ça à un moment, mais il y a notamment ce que l'on appelle parfois l'effet rebond, c'est-à-dire que du coup on a des gains en effet énergétique. En revanche, si on accroît d'autant, voire encore plus la quantité de données qu'on gère, bah, en quelque sorte, on court toujours après sa queue. Hein, en quelque sorte, on n'arrive jamais vraiment à résoudre le problème. Mais en effet, tu as bien clairement énoncé ces éléments d'optimisation qui sont de toute façon indispensables. Alors, on a une question qui est apparue à mince. Je l'ai annoncé, donc je vais la lire. Adrien nous demande, mais je le soupçonne de l'avoir fait en même temps qu'il m'écoutait, si les optimisations techniques n'entraînent pas un effet rebond, et donc s'il ne faudrait pas questionner la pertinence du stockage des données. Tu as ouvert un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou si vous en reparlerez plus tard.
Il me semble que ça va peut-être être évoqué un peu par Charles, mais oui, c'est vrai qu'on peut se questionner sur... la pertinence, par exemple, du big data, qui est beaucoup utilisé pour nous surveiller, obtenir des données qui ne sont pas forcément très, très utiles et qu'on pourrait peut-être éviter, oui, en effet. En effet, le fait qu'une ressource devienne de plus en plus disponible, comme puisque la capacité de stockage dans un data center est de moins en moins chère, ça entraîne une augmentation de la consommation de cette ressource, qui est du coup la donnée dans un data center. Et... c'est vrai que cet effet rebond a tendance à contrecarrer, et voire assez largement d'ailleurs à dépasser les avancées technologiques. Donc oui, c'est vrai qu'il faudrait plutôt diminuer le nombre de data centers si possible. Ce serait vraiment la meilleure manière de diminuer leur impact. Ouais.
Ok, bah merci à toi. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Alors donc là, on a vu, on a essentiellement donc adressé la question du stockage. Et donc à présent, Bastien, on va attaquer la question de la transmission, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Bonjour à tous. Alors maintenant, donc on va considérer l'impact écologique de la transmission des données. Donc nous avons vu dans la partie juste avant avec Thomas qu'on utilisait en masse les données et que les stocker avait un impact très important sur l'environnement. Mais la manipulation des données implique aussi la transmission, notamment entre utilisateurs et data centers, de ces données. Et cette part de responsabilité dans l'impact environnemental n'est pas à négliger. Elle est bien moins souvent évoquée lorsqu'on parle d'impact environnemental du numérique que la part de stockage ou bien encore celle de l'utilisation des terminaux. Mais pour donner des chiffres, The Shift Project, dans son rapport d'octobre 2018 pour une sobriété numérique, avait estimé que la part du réseau dans la consommation énergétique du numérique s'élevait à 16% contre 19% pour le stockage notamment et 20% pour l'utilisation des terminaux. Les causes alors de cette consommation sont les ressources énergétiques nécessaires pour alimenter les infrastructures qui transmettent les données. Ainsi, en voulant limiter l'impact environnemental de ces infrastructures réseaux, naturellement, on se demande comment réduire l'énergie consommée par ces infrastructures. Et donc, nécessairement, pour que ces infrastructures consomment moins d'énergie, on doit transmettre moins de données, c'est-à-dire transmettre moins de contenu, donc directement impacter les données, soit transmettre le même contenu pour moins de données, c'est-à-dire optimiser la transmission. Donc nous allons d'abord nous pencher sur la première solution, donc qui consiste à réduire les données transmises en réduisant le contenu transmis. Donc aujourd'hui, nos besoins et modes de vie évoluent avec les technologies du numérique, en effet, puisqu'il est de plus en plus simple de s'échanger de grandes quantités de données à de grandes vitesses et sur de grandes distances. On adapte notre usage du numérique pour profiter de ses avantages technologiques. Selon le journal du Net, donc fin 2018, le volume de données mondiales du numérique atteignait environ 33 zeta-octets, cela correspond à 33 000 milliards de milliards d'octets, et il aurait dépassé en 2020 les 610. Ces évolutions nous poussent à utiliser donc le numérique de plusieurs façons différentes, notamment une des façons est celle que l'on pourrait qualifier de « en ligne ». Pour citer des exemples, aujourd'hui on regarde des films et des séries, des vidéos sur des plateformes de streaming. De même, on a par exemple nous en tant qu'étudiants des cours sur des services de réunion vidéo en ligne, ou encore on utilise de plus en plus des services de cloud. De même, un autre usage qui évolue serait l'usage qu'on pourrait appeler du « tout est connecté ». Selon l'ADEME, donc pour rappeler l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le nombre d'objets connectés s'élevait à 4 milliards en 2010, il est passé à 15 milliards en 2018 et ils estiment pour 2030 plus de 45 milliards. Aussi, l'ADEME cite un autre chiffre. En Europe, en 2021, il considère qu'un individu posséderait en moyenne 8,9 appareils contre 5,6 en 2016. Tous ces appareils et ces objets connectés communiquent en permanence sur les infrastructures réseau. Et de nombreux objets avant indépendants complètement du réseau sont aujourd'hui conçus même pour être capables de communiquer sur le réseau. Je pense notamment à plusieurs périphériques multimédia, des téléviseurs, des enceintes, des consoles de jeux vidéo et même des voitures. Cela a donc notamment pour impact d'augmenter la quantité de données échangées. Et c'est pourquoi il est important de remettre en question la nécessité de ces échanges de données. Par exemple, on peut se demander, lorsque on utilise les services de 4G et de localisation de notre téléphone sans toucher à notre smartphone, alors de nombreux échanges de données sont générés entre le smartphone et des serveurs probablement distants, pour strictement aucun service rendu à l'utilisateur. La nécessité de ce genre d'échange est clairement à questionner. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre usage du numérique qui est, selon The Shift Project, dans leur rapport de l'insoutenable usage de la vidéo en ligne de 2019, qui représente donc plus de 80% du volume de données échangées mondialement et donc sont issues de la vidéo. J'aimerais maintenant vous passer un audio promotionnel de Netflix présent sur la chaîne YouTube de Netflix France, montrant les différents forfaits et les qualités disponibles sur Netflix pour leurs vidéos.
Notre premier forfait permet à un utilisateur de regarder Netflix en définition standard. Notre second forfait permet à deux utilisateurs de regarder Netflix en même temps et en haute définition, sous réserve de contenu disponible en HD. Avec notre troisième forfait, jusqu'à 4 utilisateurs peuvent regarder Netflix simultanément et en haute définition. Certains titres sont également proposés en Ultra HD 4K aux personnes équipées d'appareils compatibles Ultra HD. Quel que soit le forfait choisi, vous disposez d'un accès illimité à tous les films et séries TV disponibles sur Netflix. Sur n'importe quel appareil compatible, et vous pouvez installer l'application Netflix sur autant d'appareils que vous le souhaitez.
Ceci illustre donc l'intérêt du format de stockage, d'encodage des vidéos qui sont transmises des serveurs aux utilisateurs. Donc, pour citer des chiffres issus du site web Buckeye Broadband, citant donc un article de Netflix, en qualité la plus basse, 0,3 gigaoctets seraient consommés pour une heure de visualisation sur Netflix, contre 1 giga en qualité standard, 3 giga en qualité haute et en 4K ultra haute définition, près de 7 giga. Donc ces exemples montrent, donc ces deux exemples qu'on a vus, donc utiliser moins souvent sa 4G, regarder Netflix en qualité basse ou standard, on voit tout de suite que l'utilisateur a le moyen d'agir concrètement pour réduire l'impact environnemental de ses usages du numérique. Or, vis-à-vis de l'utilisateur, le web a une part d'invisibilité. Pour les transmissions de données, cela s'illustre simplement par le fait que, par exemple, lorsque l'on scrolle sur Facebook, nous n'avons aucune conscience des échanges de données qui sont générés. Pour rappel, juste Greenpeace cite le blocage de la lecture automatique des vidéos sur Facebook comme un des points nécessaires pour réduire son impact environnemental sur le numérique. Non, son impact environnemental du numérique. Ainsi, la solution serait d'informer l'utilisateur, de le sensibiliser en le plaçant directement au centre dès que l'on parle du numérique. Si on parle de ce sujet tout de suite, comme le fait le Shift Project le plus souvent possible, ils se battent pour cette cause en publiant des rapports pour éduquer les utilisateurs. Ceci serait une solution envisageable. On pourrait notamment imaginer créer une section impact de la transmission des données dans la netiquette de Wikipédia. Donc pour rappel, il s'agit simplement d'un article définissant les bonnes pratiques à adopter par les utilisateurs du numérique. Maintenant, j'aimerais passer au second axe. Donc ici, nous allons parler de réduire la quantité de données transmises pour un contenu équivalent. Premièrement, une solution très technique mais envisageable serait d'optimiser les infrastructures réseau. Donc les données, pour rappel, les données transmises circulent par exemple du smartphone connecté au Wi-Fi local d'un utilisateur lambda jusqu'au serveur d'un site web à l'autre bout du monde. Les données voyagent de routeur en routeur sans même que l'utilisateur ne sache la route employée. Encore une fois, ici, on revient à la part d'invisibilité. Or, donc chacun de ces routeurs consomme de l'énergie pour fonctionner. Il est donc évident que si on réduit le nombre de routeurs entre les serveurs et les clients, moins d'énergie sera consommée. De même, on peut parler d'optimisation des infrastructures en imaginant des technologies futures plus performantes pour, par exemple, transmettre des signaux lumineux dans les fibres optiques. Ceci répondrait directement au problème. Ensuite, j'aimerais vous parler du codage du contenu. Selon moi, le problème peut être bien mis en avant par ce chiffre issu du rapport de 2019 de The Shift Project, l'insoutenable usage de la vidéo en ligne, le chiffre étant 10 heures de vidéo de film en haute définition. C'est davantage de données que l'intégralité des articles en anglais de Wikipédia au format texte. Ainsi, la façon dont est encodé un contenu joue un rôle décisif. On pourrait imaginer une solution technologique permettant d'encoder une image avec moins d'octets, et ainsi, le même contenu correspondrait à un transfert réel de données moins conséquent et un impact environnemental moins conséquent. Par exemple, on peut encoder des fichiers audio sous différents formats. L'extrait que vous avez écouté pèse sous le format d'encodage WAVE près de 4 gigas, alors qu'en MP3, il était 4 fois moins volumineux, 1 mégaoctet. J'ai dit 4 gigaoctets, je voulais dire 4 mégaoctets et 1 mégaoctet. Je suis désolé. De même, la compression est un moyen qui consiste à réduire le nombre d'octets nécessaires pour stocker un contenu. Et il s'agit aussi d'une solution concrète pour transmettre moins de données sans affecter le contenu. Voilà, nous avons vu plusieurs points. D'abord, la part de responsabilité de la transmission de données dans l'empreinte écologique du numérique. Ensuite, nous avons identifié plusieurs sources du problème. Et enfin, nous avons abordé des solutions concrètes que l'utilisateur peut mettre en place.
Bien, merci beaucoup à toi pour cet exposé bien structuré dont tu as rappelé le plan à la fin. Moi, j'ai une première question, c'est tu as insisté à deux reprises, enfin pendant ton exposé, et puis ensuite tu l'as repris à la fin, sur la responsabilité en quelque sorte des utilisateurs, c'est-à-dire les informer afin qu'ils fassent des choix, etc., etc. Alors je pense qu'on voit bien effectivement ce qu'il y a derrière, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi imaginer agir sur les fournisseurs de services? Quand tu nous expliques qu'on peut avoir un rapport de 1 à 4 ou même à un moment de 1 à 10 ou même encore supérieur dans le volume de vidéos par exemple qui est transmise à travers un service comme celui de Netflix, eh bien est-ce qu'on pourrait pas les obliger à transmettre uniquement de la vidéo d'une certaine définition, interdire d'aller au-delà. Tu nous as parlé également des objets connectés, eh bien on pourrait également décider de s'arrêter à la 3G ou à la 4G. Alors voilà, pourquoi est-ce que tu nous as surtout parlé de la responsabilité individuelle et pas de ces autres possibilités par ailleurs?
Alors, il y a un an ou un an et demi, je vous aurais répondu que cette solution aurait probablement été complètement impossible. Mais il est important de noter qu'en novembre 2021, donc il y a d'ici un mois, une loi est passée, une des premières lois est passée visant à réduire la quantité, à imposer pardon, des règles aux distributeurs de contenu. Et ainsi, même si cette loi est aujourd'hui un premier pas, elle est un peu considérée minime. Mais c'est un premier pas et clairement, on peut imaginer que dans le futur, d'autres lois de ce genre soient passées et limitent, par exemple, au pic de consommation des données, limitent la qualité des vidéos des utilisateurs.
Oui, alors, et effectivement, et puis la façon dont tu le présentes ici, on voit bien que c'est pas contradictoire avec le fait d'informer les utilisateurs, parce qu'à un moment, les utilisateurs sont aussi les citoyens, et donc quelque part, faut qu'ils acceptent, voire même qu'ils soutiennent ce type de loi. Donc je pense que c'est complémentaire. On a une question d'Alban également qui nous demande, alors je vais vous la poser telle qu'il a posé, puis vous la reformuler un peu, parce qu'il vous demande si vous pensez que le nombre moyen d'objets connectés par personne a atteint en quelque sorte une limite, un plafond, ou s'il va continuer d'augmenter. Alors, j'ai envie de te relancer la question un peu de la même façon. Est-ce que tu penses que typiquement, le genre de limite que l'on impose, que l'on peut commencer à imaginer depuis un an, imposer aux fournisseurs de services par la loi, eh bien, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer l'imposer aux utilisateurs et aux citoyens? Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait avoir un permis de posséder des objets connectés ou quelque chose comme ça? Est-ce que...
Ce serait super, mais pour moi, dans le premier cas, donc imposer des restrictions aux distributeurs de réseaux informatiques, l'État peut se permettre de le faire parce que ça impacte indirectement les utilisateurs. Les restrictions ne sont pas directement appliquées aux utilisateurs. Je pense qu'il est beaucoup plus complexe d'imposer une restriction directement aux utilisateurs, comme vous n'avez pas le droit d'acheter plus d'un certain nombre d'objets connectés.
Ok, donc rendez-vous dans un an pour que tu changes d'avis, c'est ça? Tu sais qu'il existe de ce type de règle. Par exemple, on n'a pas le droit de rouler à la vitesse qu'on veut. Ça arrive qu'on nous impose des choses.
C'est vrai. Et vous pouvez me dire que tout à fait qu'il y a 60 ans, jamais on imaginait des restrictions de limitation de vitesse sur la route. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à concevoir une limitation de ce que l'on peut acheter en termes d'objets connectés.
Ok, en effet, c'est en tout cas évidemment pas facile à concevoir. Alors Charles, est-ce que de ton côté tu es prêt pour justement nous parler un peu, ça fait un peu une transition, et voir avec toi si notre utilisation, nos usages individuels peuvent contribuer à réduire notre empreinte numérique?
Oui, alors bonjour, nous avons vu l'impact écologique que représentent les data centers et les infrastructures réseau avec Thomas et Bastien. Dorénavant, nous allons plus nous concentrer à l'échelle de la population et des ménages en général et expliquer comment nos actions du quotidien impactent l'environnement et comment y remédier. Je vous propose à présent d'écouter un court extrait audio datant du 9 mars 2020 publié par France Inter de Mathieu Vidard, animateur et producteur français de radio et de télévision, gérant des émissions sur des sujets écologiques environnementaux.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Nicolas.
Mathieu, ce matin dans l'édito carré, l'impact énergétique de notre consommation numérique.
Que nous prenions des nouvelles de nos amis sur Facebook, que nous envoyions un mail ou que nous regardions le dernier épisode de cette série palpitante sur Netflix, notre boulimie numérique se traduit par une énorme pollution invisible. La fabrication et la consommation électrique de tous nos équipements accaparent en effet des quantités importantes de ressources en eau, en énergie ou en minerais rares, en portant préjudice à l'environnement et en aggravant le réchauffement climatique. Le 2 mars, sur le site The Conversation, Fabrice Flippot, qui est professeur à l'Institut Mines Télécom des signait un article concernant la situation en France et intitulé « L'inquiétante trajectoire de la consommation énergétique du numérique ». Il réagissait d'abord aux conclusions optimistes du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies qui, dans un document, montre une stagnation de la consommation numérique. Selon cet organisme, l'essor des très énergivores data centers et des smartphones serait compensé par le déclin de la télévision et des PC, ainsi que par une stabilisation du temps passé devant les écrans, le tout dans un contexte de plein équipement des ménages français. Il n'y aurait donc pas de raison de s'inquiéter. Pourtant, affirme Fabrice Flippot, même si l'on observe un mieux dans la consommation, il y a des limites physiques au progrès énergétique qu'il ne faut pas négliger.
C'est-à-dire ?
Eh bien, la cause principale de la réduction de la consommation est la miniaturisation grandissante des supports numériques. Or, il existe une vraie barrière infranchissable à la fabrication de puces de plus en plus petites pour stocker de l'information. Pour aller au-delà de ce minimum, il faudrait des ordinateurs quantiques dont la puissance de calcul est indépendante de la consommation énergétique. Problème, ces supercalculateurs ne seront pas au point avant longtemps. En attendant, donc, l'efficacité énergétique va ralentir, puis s'arrêter, mais pas le trafic Internet qui est multiplié, lui, par 10 tous les 10 ans. Il faut donc s'attendre à une augmentation spectaculaire de la consommation d'électricité dans les prochaines années. Et aujourd'hui, Nicolas, l'essor des technologies numériques représente déjà 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Donc, comme on a pu l'entendre dans l'audio, la consommation numérique connaît une augmentation spectaculaire ces dernières décennies et laisse derrière elle un impact énergétique colossal. Il faut agir et vite, et il existe de nombreuses solutions quotidiennes à mettre en place afin de commencer à réduire notre impact. Par exemple, privilégier des labels environnementaux lors de l'achat, diminuer la luminosité de nos écrans, utiliser des moteurs de recherche plus éthiques. Mais attention, il faut noter qu'un moteur de recherche n'est pas forcément écologique. La plupart des moteurs de recherche écologiques utilisent une technologie de métamoteur. La plupart sont liés à Google, Bing ou Yahoo. Cependant, ils mettent en place des actions telles qu'utiliser des énergies renouvelables pour essayer...
Pour leur propre partie, c'est ça, pour leur propre data center.
Oui, c'est ça. Et du coup, la différence réside dans l'utilisation des revenus obtenus. Par exemple, les moteurs de recherche allemands éco-responsables Ecosia reversent 80% de ses bénéfices à des associations à but non lucratif qui œuvrent au programme de reforestation présent essentiellement dans les pays du Sud. Nous pouvons aussi optimiser notre façon de stocker en ligne. Quand on sait que l'envoi d'un mail génère près de 20 grammes équivalent CO2, cela représente sur une entreprise géant 100 personnes près de 13 tonnes équivalent CO2 par an, soit près de 14 allers-retours Paris-New York selon l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Cependant, même si ces solutions nous permettent de réduire notre empreinte numérique, cela s'avère insuffisant à grande échelle. En effet, il faut faire intervenir la loi pour encadrer l'empreinte des différents acteurs du numérique. Mais une question se pose. Quelles règles, lois, peut-on ou doit-on mettre en place sur l'utilisation, le partage et la conservation des données ? Il existe une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire promulguée le 10 février 2020 et entrée en vigueur le 1er janvier 2021 afin, je cite d'après le site du ministère de la Transition écologique, d'accélérer le changement du modèle de production et de la consommation afin de limiter les déchets, de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Donc plus de 130 articles permettent de lutter contre toute forme de gaspillage et cette loi se décline en 5 axes majeurs. Connaissant cela, pourquoi ne pas instaurer plus de lois concernant notre usage numérique en s'inspirant de la loi anti-gaspillage ? On visualise probablement moins l'impact des émissions produites à cause de sa face cachée. Envoyer un mail, c'est gratuit. Surfer sur le web, c'est gratuit. Mais si le numérique semble virtuel, son impact est lui pourtant bien réel. Une première solution serait donc d'allonger globalement la durée de vie des équipements numériques. Lorsque l'on sait par exemple que la durée de vie moyenne d'un smartphone et d'un PC portable est de 3 ans en moyenne, avec toutes les ressources nécessaires à la fabrication de ces appareils, comprenant des métaux rares en quantité très limitée, l'on pourrait se demander s'il est pertinent de continuer dans la logique court-termiste des entreprises dont l'objectif est de vendre des appareils indéfiniment et en grande quantité aux consommateurs. Les appareils électroniques étant peu chers sur un marché ultra compétitif, il serait peut-être envisageable d'augmenter les prix en intégrant plus souvent le coût environnemental de tous les processus de fabrication afin d'inciter les acheteurs à conserver leurs appareils plus longtemps avant d'en racheter un autre et donc de les encourager à aller réparer leurs appareils à la place. En effet, on peut s'avérer dans certains cas qu'il est souvent plus rentable d'acheter neuf que de réparer, ce qui forcément n'est pas idéal d'un point de vue écologique. C'est en tout cas l'objectif que s'est donné l'entreprise néerlandaise de smartphones Fairphone, créée en 2013, dont la conception et la production des appareils ont été pensées pour intégrer les contraintes environnementales et de commerce équitable tout au long de la chaîne de production. Par exemple, les éléments matériels et logiciels ont été pensés pour être facilement réparés ou mis à jour. Une garantie de 5 ans a été mise en place. Des matériaux équitables, recyclables et neutres en déchets électroniques sont utilisés. La deuxième idée consiste à changer nos habitudes de consommation et nos mentalités. Nous sommes de plus en plus dépendants des nouvelles technologies et les chiffres qui suivent le prouvent. Selon une étude menée par OpinionWay pour le compte de Zangularity, 85% des Français se disent dépendants des nouvelles technologies. Cette dépendance se traduit par un sentiment que les technologies évoluent trop vite face au développement du numérique et certaines personnes ont du mal à les suivre. Pour la majorité des sondés, nous voyons une addiction puisque 90% d'entre eux sont irrités par la perte de réseau. La société de consommation est un concept inventé dans les années 60 par George Catona. Elle renvoie à l'idée d'un système économique et social fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir de profiter de biens de consommation et de services. Depuis, les hommes ne cessent de consommer de plus en plus et cela est valable aussi pour le numérique. Il y a même un effet de mode qui s'est installé petit à petit ces dernières décennies autour de ces appareils numériques high-tech. L'iPhone est un exemple parmi tant d'autres. Mais comment expliquer ce comportement ? Nous allons nous intéresser à un article de Pierre Steiner sur la thèse TAC que nous avons vu en cours, donc technologie anthropologiquement constitutive. Le texte de Pierre Steiner, philosophie, technologie et cognition, état des lieux et perspectives, paru dans la revue Intellectica en 2010, présente la thèse TAC qui structure une partie des recherches du laboratoire COSTEC de l'UTC. L'objectif de cette thèse est de se donner les moyens de comprendre comment les outils et les interfaces technologiques, entre autres, que nous concevons et utilisons, peuvent affecter notre mode de vie. Les technologies changent les habitudes des humains et ces derniers s'adaptent à elles. En effet, l'idée est ici qu'au fur et à mesure que la technologie évolue, l'homme fait de même. Nous pouvons donc constater à partir de la thèse que beaucoup d'activités cognitives qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement ne seraient pas possibles sans la technique, donc sans l'usage de supports et de systèmes. Par exemple, des instruments de calcul, de navigation ou les systèmes de traitement de données. Outre ces deux grandes idées, nous avons réfléchi à quelques débuts d'idées qui pourraient s'avérer être pertinentes dans l'optique d'une réduction de la pollution numérique. Par exemple, l'on pourrait limiter le temps passé sur les appareils numériques, donner un coût relatif par rapport à sa consommation numérique. Par exemple, regarder du streaming aurait un coût de 10, envoyer un mail aurait un coût de 1, etc. Sensibiliser plus souvent à l'école sur les enjeux du numérique, ou encore mettre un compteur CO2 obligatoire et visible sur tous les appareils afin de faire prendre conscience aux consommateurs de son impact sur la planète.
Merci beaucoup Charles, et ça tous ici à Mince, on ne devrait pas dire ça. Merci beaucoup Charles à toi. Alors Adrien avait une question à laquelle en fait ta dernière phrase a répondu, mais je vais la poser quand même, voir si on peut aller un petit peu plus loin. Adrien demandait si on a des moyens en fait de faire savoir aux utilisateurs finaux, eh bien concrètement, quel est l'impact écologique de leur activité. Alors, tu as suggéré un compteur CO2 sur les appareils. Je ne sais pas si on peut faire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées.
Alors oui, il faut savoir que ce compteur, entre guillemets, existe. C'est uniquement pour les navigateurs web, mais The Shift Project a créé une add-on qui donc s'ajoute sur votre navigateur et qui va du coup totaliser les données qui transitent via votre navigateur, le convertir en consommation électrique et ensuite en gaz à effet de serre. Donc ça vous permet de voir concrètement combien vous dépensez en temps réel grâce à votre navigateur. Je pourrais vous mettre le lien sur le matériel si vous voulez.
Ok, donc là, dans ce cas-là, c'est lié au transit des données en particulier ?
Voilà, c'est ça, le transit des data sur navigateur.
Bon, on voit bien l'intérêt de sensibilisation. Après, on pourrait néanmoins s'interroger un petit peu également sur ce genre d'initiative, parce que en fait, c'est pas évident de donner une information extrêmement pertinente, et notamment dans le transfert des données. Bah, par exemple, c'est à mon tour. Si on n'utilise pas un câble, pour autant, son coût écologique, il a bien été posé à un moment. À un moment, si on n'utilise pas des serveurs, pour autant, ils sont alimentés en permanence, etc. etc. Donc, oui. On voit bien que c'est quand même pas aussi facile que ça, mais je comprends l'idée.
Ça dépend aussi de comment la donnée a été transportée, puisque la 4G, par exemple, ça consomme plus que le câble, donc, ou l'Ethernet. Donc, c'est à prendre en compte aussi, mais donc c'est fait sur des modèles, oui.
Eh bien, en tout cas, je vais vous remercier tous les trois. J'ai pas d'autres questions. Et puis, si, allez, Florine a une dernière question. Je la prends en question de clôture et ensuite on terminera là-dessus. Florine nous dit que certains moteurs comme Ecosia, effectivement, ne sont pas écologiques en soi, puisque du coup, en fait, ils ne permettent pas de réduire les empreintes, mais simplement de mettre en place des phénomènes de compensation. Elle demande, est-ce qu'il y a des recherches qui existent, justement, qui permettent d'étayer un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire, in fine, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir, est-ce que vous savez si, in fine, aujourd'hui, on peut choisir tel ou tel moteur et savoir si ça a un impact particulier. J'imagine qu'on pourrait poser la question pour d'autres usages. Hein. Est-ce que vous avez comme ça d'autres types, est-ce que vous savez si certains services, effectivement, on peut objectivement penser qu'ils sont plus économiques en énergie que d'autres, par exemple ?
C'est une question que se posent beaucoup d'entreprises lorsqu'ils doivent choisir, par exemple, leur hébergeur cloud. Et c'est vrai qu'il n'y a actuellement pas beaucoup de transparence de la part de ces entreprises. Et il y a beaucoup de gens qui luttent pour obliger certaines entreprises, notamment dans le numérique, à donner leur impact. Puisqu'en fait, quand on a par exemple un service de cloud, c'est comme si on déléguait un peu notre consommation énergétique à une autre entreprise. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces données, mais malheureusement, ces entreprises le cachent pour des raisons marketing ou d'image de marque. Du coup, c'est vrai que c'est à mettre...
À modérer.
À voir, oui, dans le futur, mais...
Bon ben,
c'est en cours, quoi.
Mais merci à toi pour cette réponse. En effet, elles peuvent le cacher volontairement. Et puis, on voit aussi qu'il y a des difficultés à obtenir des données fiables. Donc, ça peut être aussi des freins à la transmission des informations. Eh bien, je vais vous remercier tous les trois pour votre intervention qui clôt donc, quant à moi, la série. Mais d'ici à peu près une demi-heure, eh bien, Audrey Guélou va venir avec deux nouveaux groupes d'étudiants qui vont donc nous parler du numérique. Un élan controversé et de l'affordance des médias sociaux numériques. Vous pouvez réécouter les interventions d'aujourd'hui et les précédentes sur graphite.net, sur aperi.tube, chaîne WE01. Je vais en profiter pour remercier chaleureusement Graphite, en particulier Léo et Brian, de nous avoir accueillis pour ces 3 semaines d'émission. Je vous salue et puis à très bientôt.